Bonjour, je m'appelle Maryse Damcourt, étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM. Donc ça veut dire que je passe plusieurs heures à lire et à m'informer sur diverses théories, manières de comprendre l'humain. Et personnellement, ça m'inspire beaucoup et ça me nourrit. Donc j'ai choisi de vous partager tout ça à travers ce balado « Comprendre l'humain avec ou sans un doc en psycho ». Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la théorie polyvagale. C'est vraiment un coup de cœur pour moi, cette théorie-là. Je l'ai connue il y a environ 3 ans. Donc c'est une théorie de la connexion humaine, de comment nourrir au quotidien un état de sécurité et de bien-être. Donc ça aide à comprendre le rôle que joue notre système nerveux dans les variations de nos états. Donc pourquoi à certains moments on est joyeux, détendu, et à d'autres stressés, inquiets ou encore déprimés, désespérés, absents. C'est une théorie de la danse entre notre système nerveux, nous-mêmes, le monde et les autres, et comment ces mouvements influent sur nos états. Donc ça aide à expliquer nos réactions qui parfois nous semblent illogiques. Pourquoi parfois si je rentre dans une pièce, je me sens mal, tandis que la situation a l'air tout à fait normale. Et je trouvais ça particulièrement approprié dans la condition actuelle de la pandémie et plus spécifiquement ce qui est lié aux mesures sanitaires, donc la distanciation physique, le port du masque, qui nous affecte, qu'on le veuille ou non. Parce que comme les auteurs le disent, « We're wired to connect », on est câblé pour connecter. Donc, les sources sur lesquelles je me suis appuyée pour créer ce balado, tout d'abord, il y a les travaux du Dr. Stephen Porges, donc P-O-R-G-E-S, qui est un neuroscientifique qui s'est intéressé aux enfants prématurés et au développement du nerf vague, et il a développé la théorie polyvagale. Donc, ces travaux, quand même assez pointus, sont difficiles à vulgariser comme ça. Donc, je me suis aussi appuyée sur cette clinicienne qui est spécialisée là, dans les personnes qui ont vécu des traumas, qui s'appelle Deb Dana, D-A-N-A, et qui a écrit le livre « The Polyvagal Theory in Therapy ». Donc, un livre vraiment bien écrit que je vous recommande si vous avez envie d'approfondir votre connaissance de la théorie polyvagale. Pour comprendre la théorie, ça nous prend quand même quelques connaissances du système nerveux. Donc, en gros, on a le système nerveux central. Donc, ça, c'est le cerveau et la moelle épinière. C'est en quelque sorte le centre des commandes à la fois consciente et inconsciente. Ensuite, on a le système nerveux périphérique. Ça, c'est l'ensemble des nerfs qui parcourent le corps et qui amènent des informations vers le système nerveux central et qui transmettent les commandes du système nerveux central vers tout le reste du corps. Et dans ce système nerveux périphérique, il y a le système somatique, donc les muscles, les capteurs sensoriels. C'est grâce à ce système-là qu'on peut bouger, parler, sentir une caresse ou de la douleur. Et il y a aussi le système nerveux autonome. Donc c'est vraiment sur lui qu'on va se pencher pendant ce balado. Celui-là fonctionne de manière inconsciente. Il s'occupe de l'homéostasie, de l'équilibre interne de notre corps. Donc il s'occupe de la régulation de la digestion, des battements du cœur, la tension artérielle, des hormones, la température interne et aussi de la respiration. Bon, la respiration peut aussi être contrôlée consciemment, mais on n'a pas besoin d'être conscient pour respirer. Et dans le système nerveux autonome, il y a ce fameux nerf vague, donc le 10e nerf crânien, le nerf le plus long dans le corps humain. Donc dans sa racine étymologique, le nerf vague, ça veut dire vagabond qui se promène. Donc ce nerf vague-là part à la base du crâne et descend dans la moelle épinière jusqu'environ au diaphragme où là il va se diviser en 2 branches. Tout d'abord la branche dorsale qui est la plus ancienne. Elle n'est pas myélinisée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une petite couche de graisse dessus qui fait que les signaux électriques passent plus vite. Donc elle est vraiment ancienne, probablement que ça nous vient de nos ancêtres, les reptiles. Donc elle va innerver tous les organes en dessous du diaphragme et elle est responsable de la régulation de la digestion principalement. Ensuite, la branche ventrale, elle, qui est la plus récente, elle est myélinisée, elle s'en va vers le cœur, vers les poumons pour la respiration. Et elle va aussi s'associer avec les nerfs, avec différents nerfs du visage. Donc, va se relier aux yeux, aux oreilles, aux muscles des expressions faciales pour former ce qu'on appelle le système d'engagement social. Et c'est par ce système qu'on communique avec les uns avec les autres, qu'on dit à l'autre « je suis bien en ta présence ». Et ce système a commencé à se créer dans le troisième trimestre intra-utérin et n'est comme fonctionnel seul que vers un an. Mais évidemment, là, la dépendance se poursuit un peu plus loin que ça. Donc, c'était beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le système nerveux autonome dans lequel il y a le nerf vague qui se divise en deux branches, la branche dorsale, responsable plus de la digestion plus ancienne, et la branche ventrale, responsable de la respiration, du rythme cardiaque et qui forme aussi avec d'autres nerfs le système de l'engagement social. Notre système nerveux autonome est responsable de notre état général. C'est lui qui décide, si on peut s'exprimer ainsi, si on se sent calme, tendu ou figé face aux diverses situations de la vie. Et comment est-ce que notre corps, notre système choisit entre les différents états? Eh bien, selon la théorie polyvagale, on a en nous la neuroception. Donc ça, c'est pour l'imager, on peut dire qu'on a un surveillant interne qui travaille 24 sur 24 et qui guette constamment les signes de sécurité ou de menace et qui, selon ce qu'il perçoit, va activer un état qui est adapté à la situation. Et tout se passe sans qu'on en ait conscience. Donc, notre surveillant interne, la neuroception, choisit entre trois grands états possibles. Le mode de la connexion sociale, le mode de la mobilisation dépense d'énergie et le mode de l'immobilisation. Donc, vous connaissez peut-être la différence entre les systèmes sympathiques où on dépense l'énergie et parasympathiques où l'on se repose, on emmagasine de l'énergie. C'est pas mal ça qui est enseigné là, dans les écoles secondaires, les cégeps et même les universités. Mais en fait, selon les travaux du docteur Porge, le système parasympathique aurait deux branches qui correspondent aux deux branches du nerf vague dont on vient de parler, la branche ventrale et la branche dorsale. Donc, on peut dire que le système nerveux autonome a en fait trois états possibles. Le ventral, qui est le mode de la connexion sociale, le sympathique, qui est le mode de la mobilisation, et le dorsal, qui est le mode de l'immobilisation. Précisons aussi que les trois modes sont toujours actifs en tout temps. Quand on parle qu'on entre dans un mode, ça signifie que ce mode-là est à l'avant-plan, c'est lui qui mène en quelque sorte. Et chacun des modes a pour fonction d'assurer notre sécurité, notre survie. Pour les retenir puis mieux les comprendre, j'aime beaucoup donner un exemple avec les animaux. Pourquoi? Bien parce que les animaux, contrairement aux humains, bien, sont beaucoup moins capables d'inhibition, donc c'est beaucoup plus évident dans quel mode ils sont. Donc, imaginez un animal qui se sent en sécurité. Il est dans le ventral. Il va vaquer à diverses occupations. Il va peut-être chercher la nourriture, se construire un abri, avoir envie de socialiser, rencontrer d'autres animaux, jouer avec eux. Et tout à coup, un prédateur arrive. Donc là, sa neuroception va percevoir un danger, mais va percevoir aussi qu'il peut y échapper. Il peut attaquer ou fuir. Donc là, il rentre dans le sympathique, le mode de dépense d'énergie. Imaginons que l'animal choisit de fuir, mais que dans sa course, il tombe, il se blesse. Donc là, sa neuroception va continuer de percevoir un danger, mais va aussi percevoir qu'il ne peut plus y échapper, qu'il n'y a plus d'espoir. Donc c'est à ce moment-là qu'il va rentrer dans le dorsal. Il va peut-être faire le mort, probablement être engourdi, avoir moins de sensations, moins d'émotions. Il y a même certains scientifiques qui disent que le mode dorsal serait adaptatif parce que ça permettrait d'avoir une mort moins douloureuse. Donc, ces mêmes trois états se retrouvent aussi chez l'humain. Quand notre neuroception perçoit de la sécurité, on est dans le mode ventral. Ça, c'est vraiment le fonctionnement optimal de l'humain. C'est le moment où on a le plus de comportements possibles, le plus grand répertoire comportemental, autrement dit. Dans le mode ventral, on se sent bien et on a plus envie d'être créatif, d'aller vers les autres. On est plus capable de ressentir de la compassion et de l'autocompassion. On a une meilleure concentration, on est davantage capable de faire abstraction des bruits ambiants. La saveur du ventral, c'est la sécurité, le plaisir, le calme, la connexion. Le ventral peut aussi collaborer avec le sympathique pour augmenter plus ou moins le niveau d'énergie dans le corps. Par exemple, si on fait de l'exercice physique ou qu'on est en train de faire une présentation orale, probablement que notre sympathique est légèrement activé, mais en collaboration avec notre ventral. Donc, c'est le ventral qui choisit de laisser le sympathique augmenter un petit peu, puis il va le redescendre quand le moment stressant est passé. Ici, on se sent investi, intense, énergisé, mais on est encore dans le ventral. Par contre, si ça ne suffit pas, si la petite activation du sympathique régulée par le ventral n'arrive pas à faire diminuer la perception du danger, alors là, probablement qu'on entre dans le mode sympathique. Un exemple d'une situation moyennement dangereuse, vous êtes dans le métro et une personne vous menace de vous frapper. Donc, j'espère que ça vous arrivera jamais. C'est vraiment un titre d'exemple. Donc, votre sympathique va probablement prendre les devants à ce moment-là et vous allez peut-être essayer de rapidement vous diriger vers la sortie. Donc, s'il n'y a plus de collaboration avec le ventral, c'est plus le moment de connecter. Il faut sauver votre intégrité physique. Donc, ça, c'est le mode de la mobilisation qui nous pousse à fuir ou à combattre. Donc, ici, notre répertoire comportemental est vraiment réduit. On veut fuir ou on veut attaquer. On vit des émotions de colère, de peur, de nervosité. Ici, la saveur, c'est le surplus d'énergie. Dans ce mode-là, notre cœur bat vite, notre pression sanguine augmente et le corps sécrète toute une cascade hormonale, adrénaline, noradrénaline, cortisol, etc. Et c'est vraiment cette cascade hormonale qui va distinguer le sympathique dérégulé du sympathique quand il était régulé par le ventral. C'est que quand on est dans un sympathique régulé par le ventral, oui, le cœur bat plus vite, oui, la pression artérielle se augmente, mais on n'a pas la cascade hormonale. Et c'est ça qui explique que c'est beaucoup plus difficile de s'en remettre du sympathique à cause de toutes ces hormones-là. Imaginons ensuite une situation plus intense de danger extrême, avoir une arme pointée sur soi. Encore une fois, désolée pour l'exemple que je trouve très violent, c'est vraiment à des fins pédagogiques. Donc, si votre neuroception perçoit que peu importe ce que vous faites, que vous ne pouvez pas attaquer, vous ne pouvez pas fuir, il n'y a pas d'issue possible, l'option qui reste, c'est le dorsal, c'est de figer. Dans ce troisième mode, c'est ça, on fige, on se retire, on évite même les contacts visuels, on ressent moins d'émotions et moins de douleurs physiques. Les émotions ressenties sont soit engourdies, absentes ou plutôt de l'ordre de la tristesse et du découragement. Ça, c'est vraiment le système le plus dommageable, c'est le plus difficile à s'en remettre physiologiquement et psychologiquement. La saveur ici, c'est l'absence, le désespoir. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que chez les humains, c'est qu'on a tous en nous un patron de réaction personnelle qui est issu de notre histoire. Donc, notre neuroception ne va pas mesurer le danger objectif réel, mais bien une perception vraiment subjective et teintée de nos expériences du danger. À titre d'exemple, une personne qui a déjà vécu de la violence, si par exemple elle voit une main levée dans les airs, même si c'est simplement pour poser une question en classe, va peut-être réagir avec du sympathique ou encore avec du dorsal en figeant, parce que pour elle, sa neuroception perçoit un danger. Un autre exemple, une personne qui porte des blessures d'abandon va peut-être avoir une neuroception qui est hypersensible à tous les potentiels signes que l'autre voudrait peut-être s'éloigner d'elle. Parce que pour son système, ces signaux-là ont peut-être été associés quand elle était enfant à beaucoup de détresse. De savoir ça, comporte tous, chacun, chacune, une neuroception qui est teintée de notre histoire, de nos blessures, de nos traumatismes, eh bien pour moi, ça m'aide à avoir de la compassion pour moi et pour les autres. Quand je réagis de manière illogique, inappropriée, ou quand l'autre aussi réagit un peu trop fort ou d'une manière que je trouve qui n'est pas appropriée, eh bien je sais qu'à la base, il y a une neuroception qui a perçu un danger puis que la réaction de la personne, bien, c'est simplement une réaction au service de la survie. Et tout ça, ça se passe en deçà de notre conscience et beaucoup plus rapidement que notre capacité à réfléchir puis à faire du sens de ce qui vient de se passer. Donc, en premier, on a un état ventral, sympathique, dorsal, et ensuite, on se raconte une histoire pour essayer d'expliquer cet état-là. Et cette neuroception qui nous est propre fonctionne à trois niveaux. À l'intérieur de nous, donc qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que mon cœur bat vite ou plus lentement? Est-ce que j'ai mal? Est-ce que je suis confortable? À l'extérieur de nous, donc est-ce que j'entends un bruit strident ou le son d'une rivière? Est-ce que je suis dans un espace vaste, un espace clos? Et entre nous, donc au niveau relationnel. Et c'est ici que le système d'engagement social qu'on parlait tantôt est vraiment le plus actif. Donc ici, on est sensible au ton de la voix. Pour nourrir la sécurité, la voix, elle est douce, elle est mélodieuse, donc chantante et non monotone. Le toucher, mais ça dépend, il y a certaines personnes que le toucher ne va pas nourrir la sécurité, mais en général, c'est un signe de sécurité que de se faire toucher, évidemment, doucement. De bouger les mains et d'incliner la tête en parlant, parce que une personne qui nous parle avec la tête fixe et immobile, ça peut être interprété comme un signe de danger. Les sourires, mais les sourires qui impliquent les yeux, donc avec les petites rides là, sur le côté des yeux, ça aussi, ça vient nourrir la sécurité. Mais ça, on le sait, nous, on a grandi en tant qu'humain avec une neuroception, donc on le sait un peu intuitivement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on interagit avec un enfant, on fait toutes ces choses-là un peu intuitivement. On va prendre une voix un petit peu plus mélodieuse, on va peut-être toucher l'enfant doucement, on va bouger la tête, les mains, sourire, parce que physiquement, on le sait qu'en faisant ça, notre neurosystème est en train de dire au neurosystème de l'enfant « Tu es en sécurité avec moi ». Et l'auteur Deb Dana, dans son livre sur la théorie polyvagale, suggère de mieux connaître notre neuroception. Donc, quelles sont les particularités de votre neuroception? Quels sont les signaux qui vous font vraiment vous sentir en sécurité? Donc, on vient d'en nommer quelques-uns qui sont habituellement partagés par la plupart des humains, même des animaux, des mammifères, mais est-ce qu'il y en a qui vous sont propres? Et aussi, est-ce que vous avez des déclencheurs particuliers, des éléments, soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous ou au niveau relationnel, qui ont tendance à vous précipiter dans le sympathique et dans le dorsal? Donc, en apprenant à mieux connaître votre neuroception, bien, ça vous permet d'apprivoiser, d'entrer en relation avec votre neurosystème, de mieux le connaître et d'avoir de la compassion aussi envers les blessures qu'il porte. Et ces différents modes qu'on a, donc le ventral, le sympathique et le dorsal, ont aussi beaucoup de conséquences, autant psychologiques que physiologiques, parce que en fait, ça impacte carrément notre système nerveux autonome. Donc, quand on est la plupart du temps dans le ventral, donc comme je l'ai dit tantôt, c'est normal de naviguer entre les trois états, mais si on est plus souvent dans le ventral, ben ça augmente nos capacités de concentration, notre capacité à prendre du recul sur les situations. Aussi, au niveau physiologique, c'est bénéfique pour la santé du cœur, la régulation de la pression sanguine, le système immunitaire, la digestion, le sommeil et aussi un sens général du bien-être. Quand on est souvent dans le sympathique, donc là, on risque d'avoir des problèmes d'anxiété, attaques de panique, colère, problèmes de concentration, problèmes relationnels aussi. Au niveau physiologique, on a des problèmes de cœur, de pression, de cholestérol, de sommeil, prise de poids, problèmes de mémoire, maux de tête, tension chronique au niveau du cou, des épaules, du dos, douleur à l'estomac et moins bon système immunitaire. Dans le dorsal, il y a des problèmes de dissociation. Ça, c'est quand on a une impression de déconnexion avec notre corps ou avec la réalité, un peu l'impression que tout semble irréel. Des problèmes de mémoire, de dépression, de manque d'énergie. Au niveau physiologique, il y a la fatigue chronique, la fibromyalgie, les problèmes d'estomac, la faible pression sanguine, le diabète de type 2 et la prise de poids. Donc, vous voyez à quel point c'est important de prendre soin de notre neurosystème et on peut vraiment prendre la mesure de tout l'impact que ça a, autant du point de vue psychologique que physiologique. Cependant, je le répète, c'est normal de passer à travers les trois états. Donc, au cours d'une journée, chacun d'entre nous, c'est sûr qu'on va passer à travers les trois états. C'est normal, c'est sain. On va se réveiller peut-être avec une petite saveur de dorsale, donc peut-être un peu maussade ce matin, découragé, démotivé. Puis on joue avec son enfant ou on parle avec le conjoint-conjointe, là ou la coloc, et on se sent mieux, un petit peu plus dans la connexion, on a rigolé un peu, on a vu des sourires, on a souri nous-mêmes. Là, on embarque dans le ventral. Et là, vous commencez à travailler, on reçoit un courriel qui ajoute une énorme charge de travail inattendue. Vous allez probablement vous diriger un peu plus vers le sympathique. Puis finalement, vous recevez le reproche là, de votre conjoint-conjointe, ce qui vous envoie encore plus loin dans le sympathique. Sur l'heure du midi, vous allez vous promener avec un ou une amie et ça vous ramène dans le ventral, la connexion avec l'air, la nature, le soleil et votre ami. Donc, vous voyez, ça varie comme ça naturellement tout au long de la journée. Et ce que souligne l'auteur Devdana, c'est que c'est une pratique qu'elle propose là, à ses clients d'essayer de suivre « Oh, où est-ce que je suis en ce moment? Dans lequel des trois états est-ce que je suis? Et quelle est la saveur de cet état-là en ce moment? » Et une autre chose qui est intéressante à propos de ces trois états-là, c'est qu'ils fonctionnent comme sur une ligne. Donc, en haut de la ligne, par exemple, si la ligne est verticale, en haut, on a le ventral, au milieu, le sympathique, et en bas, il y a le dorsal. Donc, on ne peut pas passer directement du ventral au dorsal, ça passe nécessairement par le sympathique. Donc, par exemple, vous êtes dans le ventral et vous percevez un petit danger gérable, vous embarquez dans le sympathique régulé. Si ça ne fonctionne pas, on redescend vers le sympathique dérégulé. Et si finalement ça ne marche vraiment pas, commencez à vous sentir découragé, là on passe par le dorsal. Et parfois ce passage par le sympathique est vraiment bref. Peut-être que vous n'en rendez même pas compte, mais physiologiquement, il y a nécessairement un passage par le sympathique. Et pour sortir du dorsal aussi, il faut passer par le sympathique. Donc, par exemple, si vous êtes en peine d'amour, découragé, déprimé, vous êtes dans le dorsal. Puis, vous commencez à migrer vers le haut, vers le sympathique. Donc là, vous allez vous sentir en colère, vous allez avoir envie d'insulter là, l'être aimé, même de lui faire mal. Et vous vous dirigez finalement vers le deuil de la relation, l'acceptation et même la célébration des moments passés ensemble. Là, vous êtes rendu dans le ventral. Mais cependant, pour beaucoup de personnes, les émotions intenses du sympathique sont une source d'insécurité. Donc peut-être que certaines personnes ont des croyances comme « si je vis de la colère, je ne serai pas aimée ». Donc le problème, c'est qu'en remontant vers le ventral, à partir du dorsal, et en arrivant dans le sympathique, bien, ces personnes-là ont peur et retournent encore plus dans le dorsal par la suite. Et ça, c'est vraiment, selon l'auteur Devdana, une boucle typique. Entre le dorsal et le sympathique, et c'est vraiment exténuant pour le système nerveux. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà embarqué dans ce cycle dorsal-sympathique. Personnellement, je l'ai déjà expérimenté, et c'est vraiment pas de tout repos. Donc, finalement, peu importe dans quel mode, dans quel état on est, le but, c'est d'essayer de retrouver notre chemin vers le ventral. Et comment on fait ça? Ben, il y a deux moyens. La co-régulation, donc avec quelqu'un d'autre, ou l'autorégulation. Donc tout d'abord, on va parler de la co-régulation. Quand on est enfant, et là ça va faire un lien avec le premier balado de cette série sur la théorie de l'attachement, bien, les enfants ne sont pas capables de s'auto-réguler, donc ils ont absolument besoin de co-régulation. Et même nous, les adultes, on a encore parfois, souvent, voire tout le temps, besoin de co-régulation. Et même si c'est moins nécessaire, moins vital que pour les tout-petits, ben, ça nous fait un bien fou, ça fait partie de notre équilibre. Donc le docteur Porges et Devdana insistent vraiment sur ce fait. La manière dont notre système nerveux est fait, les filages des nerfs font en sorte qu'on est carrément câblé pour connecter. Donc, notre santé, notre équilibre dépend en partie de la co-régulation. Et c'est quoi la co-régulation? Bien, c'est lorsque deux systèmes nerveux autonomes connectent ensemble. Les regards soutenus, les touchés, les sourires, la voix douce. Par exemple, moi j'aime penser à une mère qui répond au gazouillement de son nourrisson, les yeux dans les yeux, ou deux amoureux qui s'embrassent et qui se regardent, deux amis qui se parlent cœur à cœur. Donc ici, je trouve qu'on voit vraiment comment les mesures sanitaires en ce moment peuvent nous affecter. Donc c'est normal qu'on se sente pas à notre meilleur, qu'on soit plus souvent dans le sympathique puis dans le dorsal, parce que nos ressources habituelles de co-régulation sont moins disponibles. Donc notre système est comme déséquilibré un peu vers le bas. Cependant, pour certaines personnes qui ont des traumatismes, comme des traumatismes d'agression sexuelle ou de violence physique, bien parfois la co-régulation même devient un signe de danger. Et ça, bien, ça freine beaucoup le développement des capacités relationnelles si ça arrive en bas âge. Parce qu'imaginez un enfant qui a vécu là, de la négligence ou de l'intimidation à l'école, bien, pourrait associer les autres à un danger. Donc à ce moment-là, ce serait difficile pour lui ou elle de développer ses habiletés parce que quand il est en présence des autres, il n'est pas dans le ventral. Donc il n'est pas capable de faire des apprentissages, il n'est pas capable d'être curieux, il a peur. Il est dans le sympathique ou dans le dorsal. Et ça, ça nous place dans une situation impossible. D'un côté, j'ai besoin de l'autre, parfois, souvent, tout le temps, pour me co-réguler, mais au lieu de m'aider, ça me nuit. Donc, c'est pourquoi certaines personnes passent par d'autres moyens, comme la nature, qui est une source de régulation, et aussi les animaux, qui est une source de co-régulation. Donc, ces personnes-là qui sont blessées, traumatisées à différents niveaux, là, ils apprennent à naviguer différemment avec leurs besoins de co-régulation. Mais cependant, même si on est vraiment adapté puis qu'on pense avoir trouvé un peu un moyen de se passer des autres, bien, on est câblé pour connecter, on est câblé pour rechercher la connexion. Donc, ces personnes-là, ce que souligne l'auteur Deb Dana, bien, tout au long de leur vie, malgré toutes les adaptations qu'elles ont faites, vont continuer de ressentir ce désir, cet appel à la connexion, à l'autre, à un niveau assez profond et même parfois inconscient. Au niveau de l'autorégulation, bien, ici, c'est tout ce qu'on peut faire qui nous fait du bien et qui n'implique pas un autre système nerveux autonome. Donc, par exemple, aller marcher en nature, s'offrir de l'auto-compassion, de l'auto-empathie, danser seul dans le salon, écouter de la musique. D'ailleurs, ça c'est un point que j'ai moins développé, mais le docteur Porge a développé tout un programme de régulation du système nerveux autonome par la musique. Donc, selon ses recherches, ce serait vraiment un outil puissant pour amener un petit peu plus le système dans le ventral. Donc, les musiciens et les musiciennes, merci beaucoup pour votre travail, ça, parce que vous aidez à réguler nos systèmes nerveux autonomes en ces temps de pandémie où c'est un petit peu plus difficile. Cependant, il y a quand même des critères, là, ce serait peut-être à aller voir, ce serait davantage les chansons mélodieuses qui amèneraient dans le ventral, tandis que les chansons qui ont plus des basses fréquences et des sons sourds qui ressemblent, dans le fond, à des anciens prédateurs, là, comme des serpents ou des grognements de gros animaux, là. Ça amènerait plutôt dans le sympathique. Donc, libre à vous de choisir les pièces musicales selon l'état que vous recherchez. Puis, en même temps, comme on l'a dit, nos neuroceptions sont toutes uniques et différentes, donc c'est bien possible que pour vous, du heavy metal vous amène dans le ventral. Il n'y a pas de problème avec ça. Un autre point qui est important, c'est que les sources d'autorégulation ou de co-régulation vont être différentes selon l'état dans lequel vous êtes, l'état dans lequel vous partez. Est-ce que vous êtes déjà dans le ventral et que vous voulez seulement nourrir davantage cet état-là? Êtes-vous dans le sympathique ou dans le dorsal? Par exemple, si vous êtes dans le sympathique, votre corps est en surcharge d'énergie. Donc, d'aller vous asseoir et méditer tranquillement, c'est peut-être pas l'idée la plus appropriée. Dana suggère plutôt qu'il faut trouver une activité dans laquelle vous allez pouvoir dépenser ce surplus d'énergie qui est dans votre système. Danser, faire du yoga quand même assez actif, courir, marcher vite, chanter fort, faire de la musique fort, peut-être le heavy metal pourrait être ici. Au contraire, quand on est dans le dorsal, ben là, il faut y aller doucement. Des mouvements lents, par exemple, simplement bouger un petit peu les bras, donc danser très doucement, marcher lentement. Au niveau de la co-régulation aussi, il faut tenir compte de l'état dans lequel on est ou dans lequel la personne qu'on accompagne est. Par exemple, si vous accompagnez une personne qui a l'air figée, découragée, eh bien, ralentissez le rythme auquel vous parlez. Adoucissez votre ton de voix. Oui, vous pouvez chercher le regard, mais n'insistez pas parce que peut-être que même un simple contact visuel pourrait être trop en ce moment pour son système. Une ressource de co-régulation qui a été suggérée là, par l'auteur d'Ebdana, c'est simplement de sortir dehors et de ressentir la présence des autres. Pas obligé d'engager la conversation avec eux, ni d'échanger des regards, simplement de ressentir leur présence. Des fois, c'est un pas suffisamment grand quand on est dans le dorsal. Dans le fond, que ce soit dans l'autorégulation ou la co-régulation, ce qui est important, c'est qu'il faut aller rejoindre le niveau d'énergie de l'état, puis tranquillement l'amener vers le ventral. L'auteur d'Ebdana propose aussi de faire une liste de nos ressources d'auto et de co-régulation. Donc, elle insiste sur le fait que quand on est dans le sympathique et dans le dorsal, on n'a pas les capacités de trouver ces ressources-là, d'y penser. Vous vous souvenez, quand on n'est pas dans le ventral, nos capacités cognitives sont vraiment réduites. On a moins de concentration et moins de capacité de prendre la perspective par rapport à ce qui arrive. Donc, elle suggère de, pendant qu'on est dans le ventral, de se poser cette question-là. Quelles sont nos ressources d'autorégulation quand on est déjà dans le ventral, quand on est dans le sympathique ou quand on est dans le dorsal? Et quelles sont nos ressources de co-régulation, encore une fois, dans les trois états? Quand je suis dans le ventral, dans le sympathique et dans le dorsal. Et j'ai envie de vous proposer de peut-être faire cet exercice-là avec un ou une amie ou votre conjoint-conjointe, quelqu'un d'autre, lui faire écouter le balado et de faire ce petit exercice-là et d'échanger vos ressources. Parce que dans le fond, en ce moment, comme je le disais avec la pandémie, plusieurs de nos ressources de co-régulation, mais même d'autorégulation aussi, sont plus disponibles. Les personnes qui aimaient aller s'auto-réguler en allant faire du sport au gym ne peuvent plus non plus. Et ça, c'est de l'autorégulation. Donc, en s'inspirant les uns les autres, je pense que ça peut aider de diversifier nos manières de nourrir notre ventral pour nous aider là, à traverser la situation qu'on vit en ce moment. En conclusion, puis dans une perspective un peu plus sociologique, ce que je retiens vraiment de cette théorie polyvagale, c'est que l'humain est à son meilleur quand il se sent en sécurité. Puis au contraire, la peur, la menace, bien ça nous précipite dans le sympathique et dans le dorsal où on n'a pas accès à ces qualités humaines que sont la compassion, la créativité et la bienveillance. Donc, on a plutôt intérêt à nourrir chez soi et chez les autres le sentiment de sécurité. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a aidé à vous comprendre, à comprendre les autres et peut-être aussi vous donner la piqûre, comme à moi, de la théorie polyvagale. Donc, mes sources, les travaux du Dr. Stephen Porges, P-O-R-G-E-S, le livre de Polyvagal Theory in Therapy de Debdana, D-A-N-A, et je souligne aussi la pièce musicale Quiet Tree de Thomas Stanko, S-T-A-N-K-O. Mon nom est Marie Zamcourt, je vous remercie vraiment pour votre écoute.